Europe 1.
Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro d'Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter, en compagnie d'un garçon qui garde toujours la tête haute, sauf la fois où il nous avait dit qu'il écrivait Bonne Chère, C-H-A-I-R. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Oui, malgré mes lacunes orthographiques, je m'efforce de garder la tête haute, à l'instar de nos personnages du jour qui ont fait avancer la société.
Toujours le point levé, c'est notre thème cet après-midi. Et c'est en levant chacun le leur que Tommy Smith et John Carlos se sont fait remarquer lors des JO de Mexico en 1968. Je vous raconte le destin de ces deux sprinteurs qui sont entrés à toute vitesse dans l'histoire à coups de poing pour faire entendre la voix des Afro-Américains que l'Amérique ne voulait pas entendre à cette époque-là. Puis, lui aussi a brandi son poing en sortant de prison où il a passé 27 années enfermé après avoir combattu à main nue l'apartheid en Afrique du Sud. Je vous raconte celui qui en est devenu le premier président noir, Nelson Mandela. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez évidemment le portrait à 99% vrai de celle sans qui l'idée de cette émission n'aurait même pas germé dans nos cerveaux malades.
Bien sûr.
Ahmed Bent.
Et vous parlez de Mel Bent, je vais vous dire, ça ne fait pas peur, c'est pas. Ah oui, tout le monde. Alors, on a des gros fans de Mel Bent autour de la table, visiblement.
Ça groove, qu'est-ce que vous voulez que
c'est chanson
groove,
c'est excellente, elle a
pas fait. On ne peut pas. Bah oui, mais
elle a beaucoup
de rides. C'est ce qu'on appelle un tube. Hein.
C'est un tube, effectivement. Alors, bon, je sais que c'est pas votre cas musicalement, Stéphane, mais j'y crois encore et en cœur à cette chronique. Car oui, dans la chanson, elle dit encore et en cœur.
C'est beau.
Vous ne le saviez pas ? Qu'est-ce que vous ne savez pas encore de Mel Bent ? Rendez-vous à 17h20.
Et avec nous, comme chaque jour, d'abord celle qui nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Ouais, vos personnages du jour lèvent le poing, mais c'est un message politique. Alors que pour Lady Bear Knuckles, la dame aux doigts nus, ou Polly Fairclough Burns, eh bien, ces femmes qui furent parmi les premières boxeuses anglaises célèbres, jouer des poings, c'était juste un moyen comme un autre de gagner leur vie. Et pour la première d'entre elles, elle se battait dans les rues de Londres. Ah oui. Simplement, elle gagnait 3 sous comme ça.
Alors avec David Castro-Lopez, on va remonter aux origines d'une invention, une invention qui fait nos délices aujourd'hui.
Mais oui, aujourd'hui particulièrement, parce qu'on est le 1er décembre.
On peut enfin l'ouvrir,
le calendrier de l'Avent.
Exactement.
D'où ça vient, je vous le dirai. C'est un peu mystérieux comme origine, mais c'est un peu flou, disons, par rapport à certains nombres d'autres choses, mais je ferai ce que je peux.
Ça doit pas être très vieux quand même.
Non, c'est pas très vieux.
C'est pas très vieux.
Et puis avec Olivier Pouls, on remonte aux origines d'une recette, d'un plat, d'un mets. Aujourd'hui,
un bon céleri rémoulade. Mais d'où vient la sauce rémoulade?
Avec David, on est moins chaud que Stéphane et vous, visiblement, sur le céleri rémoulade.
C'est-à-dire qu'on en a tellement mangé de mauvais
jamais goûté votre céleri rémoulade.
Je vous donnerai tous les secrets de la sauce rémoulade.
Et vous nous donnerez peut-être la recette.
Et de la moutarde, ça semble fort la moutarde.
Oui, la moutarde, évidemment.
Et puis enfin, comme Ahmed Bent, votre philosophie, c'est d'avancer le cœur léger, toujours le poing levé, mais il serait temps un jour de passer de la théorie à la pratique. Bern to be alive, le quiz qui fait mal, ça sera vers 5h moins le quart. Et à défaut de viser la lune, vous tâcherez de répondre quand même correctement à quelques questions. Mais tout de suite, découvrons nos premiers personnages du jour.
Europe 1. 16h, 18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Sur le podium, devant le stade de Mexico lors des JO et devant 400 millions de téléspectateurs, deux athlètes ont suivi votre conseil, Stéphane.
Haut les mains.
Ils ont même fièrement levé le poing. Je pense que c'est peut-être la 47e fois qu'on le diffuse. Ils ont même fièrement levé le poing, ganté, symbole de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Stéphane Bern nous raconte Tommy Smith et John Carlos, deux sprinteurs entrés dans l'histoire à coups de poing.
Il est 19h17, heure locale de Mexico, ce 16 octobre 1968, lorsque le drapeau des États-Unis est hissé vers le ciel et que le Star Spangled Banner retentit. L'hymne national américain retentit devant les 83 700 spectateurs du stade olympique venus assister à l'une des épreuves reines des JO, le 200 mètres. Au centre du stade, sur le podium, deux hommes viennent d'achever leur course et de faire vibrer la foule. Tommy Smith, 24 ans, médaille d'or sur la poitrine, et son coéquipier et camarade de classe, John Carlos, 23 ans, revêtu, lui, du bronze. Soudain, les deux athlètes victorieux lèvent le poing, chacun recouvert d'un gant noir. Tommy Smith à la main droite, John Carlos à la main gauche. Les deux sprinteurs qui ont déposé leurs chaussures au pied du podium sont en chaussettes noires, comme un symbole de la pauvreté des Afro-Américains. Autour du cou, ils portent un foulard en hommage à l'oppression et à l'esclavage des hommes noirs aux États-Unis. Des noirs comme eux, malgré leur performance, Tommy Smith et John Carlos n'esquissent pas le moindre sourire et préfèrent baisser la tête sans regarder le drapeau de leur nation, célébré dans le stade et devant les caméras du monde entier. Dans son autobiographie, Tommy Smith déclarera plus tard que ce geste n'est pas, comme cela a été souvent avancé, un salut du Black Power, mais un salut pour les droits de l'homme. Car cette image que personne n'a oubliée n'avait qu'un seul but, devenir un symbole de la lutte pour les droits civiques. En 1968, aux États-Unis, le combat racial fracture toujours la société. Oh, des avancées ont bien eu lieu. L'interdiction de la ségrégation scolaire, l'obtention du droit de vote pour les personnes noires, l'autorisation des mariages mixtes. Mais des inégalités subsistent toujours dans l'accès à l'emploi, au logement ou encore à l'éducation. 6 mois avant les Jeux Olympiques de Mexico, le leader de ce mouvement pour les droits civiques, le pasteur Martin Luther King, est assassiné. Plus les JO se rapprochent, plus le climat ne cesse de se tendre. En juin, Bobby Kennedy, sénateur et frère du président assassiné John Kennedy, est tué à son tour, le corps criblé de plusieurs balles après un meeting en Californie. 1968 est donc une année sous haute tension aux États-Unis. Guerre froide, guerre du Vietnam, discrimination raciale. Les athlètes noirs américains se demandent même si pour faire entendre leur voix, ils n'auraient pas tout intérêt à boycotter les Jeux Olympiques à venir. Pourquoi devrions-nous participer pour un pays, se donner à 100% et rentrer chez nous, où sont niés certains des droits qui nous reviennent légalement, explique Smith, le futur vainqueur du 200 mètres, quelques temps avant. Le président du Comité international olympique, Avery Brundage, n'hésite pas à répondre à ses athlètes frondeurs par caméra interposée. Pour lui, un boycott ne se ferait qu'au détriment des athlètes eux-mêmes. Les Jeux sont l'un des domaines où les Noirs et autres minorités ont toujours été traités de manière équitable et où ils ont pu montrer leur talent. Brundage ne pense pas, je le cite, que ces garçons seront assez bêtes pour protester pendant ces Jeux et s'ils s'avisent de le faire, ils seront vite renvoyés chez eux. Et pourtant, la guerre entre le comité olympique et les athlètes afro-américains est déclarée. Si les athlètes ont décidé de se rendre au Mexique pour porter haut les couleurs des États-Unis, ils comptent bien profiter de cet événement planétaire pour inviter la politique au cœur de la compétition. Et Tommy Smith et John Carlos sont déterminés à y prendre part à leur manière. Il faut dire qu'en parallèle de sa brillante carrière dans l'athlétisme, Tommy étudie la sociologie à l'université de San José. Le sport occupe une part importante de la vie du garçon, 7e d'une famille de 12 enfants. Mais la place que chaque homme occupe sur Terre lui tient également à cœur. Et particulièrement la condition des Noirs au sein de la société américaine. Mais pour espérer marquer à jamais l'histoire des Jeux Olympiques et celle des Afro-Américains, Tommy Smith et John Carlos ont une mission. Se qualifier pour la finale du 200 mètres. Défi relevé pour John Carlos. Tommy Smith, lui, se fait une petite frayeur. Alors qu'il remporte sa demi-finale, une fois passé la ligne d'arrivée, le sprinter boite et se tient la cuisse. Le diagnostic tombe, il souffre d'une élongation. Certes, les deux hommes ont obtenu leur ticket pour la finale tant convoitée et font figure de leader pour l'ultime course à la victoire. Mais si Tommy déclare forfait, son projet de mettre en lumière la ségrégation raciale aux États-Unis tombe à l'eau. Il ne peut pas se permettre d'échouer si près du but. Il doit absolument faire abstraction de ses petits pépins de physique pour aller décrocher l'or olympique. Tommy Smith est un battant. Cette finale du 200 mètres, c'est plus qu'un rêve de gosse. C'est l'unique occasion de changer le sort de toute une communauté, de tout un pays, le sien, les États-Unis. Cette course, c'est d'ailleurs plus la sienne, mais celle de tous les Afro-Américains bafoués dans leur dignité. Quand le coup de feu du départ retentit, Tommy Smith et son coéquipier John Carlos ne courent plus pour la prouesse sportive. Ils sont déjà au-delà. Ils survolent la piste pour le combat racial. Ils griffent le sol en tartant pour répondre personnellement à chaque blessure subie par leurs frères de peau. Ils engrangent les maîtres comme autant de micro-victoires sur les suprémacistes blancs. Ils sentent le vent gifler leurs jambes comme les balles fusent au quotidien dans la chair de leurs cousins noirs. Personne ne pourra leur enlever cette victoire, ni leurs adversaires du jour, ni les spectateurs, ni le comité olympique. 5 mètres avant la ligne d'arrivée, malgré la douleur à sa cuisse, Tommy Smith lève les bras en signe de victoire. Si aux États-Unis les Noirs sont relégués au second plan aujourd'hui à Mexico, cet athlète de 24 ans va les remettre symboliquement en pleine lumière. Les flashs crépitent. Tommy Smith vient de battre le record du monde du 200 mètres en 19 secondes et 83 centièmes. John Carlos décroche la troisième place, le bronze. La suite, vous la connaissez déjà. L'arrivée devant le podium, les chaussettes noires, le poing levé pendant l'hymne, mais pas seulement. Des sifflets fusent de la bouche des spectateurs présents, car cette intrusion de la politique dans une épreuve sportive n'est pas du goût de tous. Tommy Smith l'évoquera quelques années plus tard. Les réactions ont été terribles, parce que j'ai levé le poing en direction de ce qui est censé être notre plus belle création, le drapeau américain. Radiés à vie des JO, Tommy Smith et John Carlos reviennent aux États-Unis amputés de leurs médailles, mais auréolés du sentiment d'avoir fait leur devoir. Jusque dans les années 80, les deux sprinteurs seront considérés comme des parias. Pourtant, un homme n'a jamais douté de la portée de leurs gestes. Un certain Peter Norman, l'athlète australien, qui a fini deuxième de la course. Il a même porté volontairement sur le podium le badge du projet olympique pour les droits de l'homme. Lui aussi sera sanctionné par sa fédération. À sa mort en 2006, Tommy et John se rendent en Australie et portent même son cercueil en hommage. Tommy Smith et John Carlos sont eux toujours bien vivants. Reçus en 2016 à la Maison Blanche, ils sont intronisés en 2019 au Hall of Fame du Comité Olympique et Paralympique. Une preuve supplémentaire qu'ils n'ont pas levé le poing pour rien, bien au contraire.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Tommy Smith et John Carlos, nous sommes avec un historien qui connaît l'olympisme sur le bout des doigts. Stéphane, bonjour Patrick Clastre.
Bonjour.
Bonjour Patrick Clastre, vous êtes professeur à l'Université de Lausanne et l'auteur de « Jeux olympiques, un siècle de passion » paru aux éditions Les Quatre Chemins. Ne passons pas par Quatre Chemins, le point levé de Tommy Smith et John Carlos, il est pour vous aussi l'un des événements les plus marquants de l'histoire des JO. C'est peut-être le premier qui va au-delà du sport, non?
Bah déjà, il y avait eu les Jeux de Berlin 1936 orchestrés par Hitler et Goebbels, son maître de la propagande. Puis il y aura ensuite les boycotts des Jeux Olympiques de Moscou 1980 et Los Angeles 1984. Mais on était dans des logiques d'État. Cette fois-ci, on a véritablement des individus qui font irruption sur la scène olympique et en l'occurrence sur le podium.
Est-ce que vous pensez que le côté prémédité de leur acte les a aidés sportivement à se dépasser? C'était deux grands champions avant tout qui ont vraiment tout donné ce jour-là.
Ils ont tout donné, mais ils étaient de toute façon les maîtres de leur discipline. Leur victoire était annoncée, mais en sport, il y a toujours des surprises. Ils ont effectivement tenu à remporter cette victoire. Ils se sont entraînés pour cela. Ce ne sont pas simplement des athlètes, ce sont des étudiants très avancés du point de vue de l'engagement politique. Et ils sont les représentants de l'élite noire américaine, d'une certaine manière.
Mais lorsque Tommy Smith et John Carlos font ce geste, c'est pas un geste spontané, c'est quelque chose qu'ils avaient prémédité, préparé bien en amont, les chaussettes noires, les gants noirs, le foulard. Comment est-ce que le Comité international des Jeux olympiques n'a pas vu ce qui se préparait?
Le Comité international s'est retrouvé face à un événement inédit. Il a été désemparé dans un premier temps. Et c'est vrai que ce geste a été orchestré de longue date, notamment sous avec le soutien de leur mentor, Harry Edwards, qui est leur entraîneur et aussi leur professeur de sociologie, qui a soutenu à Cornell une thèse de sociologie sur les athlètes noirs, qui sera publiée l'année d'après, La révolte de l'athlète noir, dans lequel Harry Edwards démontre que le sport ne doit pas être un leurre pour les jeunes noirs américains, pour les afro-américains. Il faut qu'ils investissent l'école, l'université, avant d'investir le sport, où on les renvoie très souvent, comme le fait d'ailleurs Avery Brundage, le président américain. Autrement dit, il ne serait que bon qu'à faire du sport et rien d'autre.
Petite anecdote, je crois que durant la préparation, l'un des deux sprinteurs avait oublié ses gants. Du coup, ils se les sont prêtés. L'un a mis la main gauche, l'autre la main droite. C'est vrai ça?
Oui, tout à fait. Oui, c'est une anecdote tout à fait vraie et assez remarquable, hein, et symbolique de leur projet, hein, qui est un projet qui dépasse le politique. C'est vraiment un projet universel de reconnaissance des droits dans des logiques universalistes. Et le soutien de Peter Norman, cet Australien blanc, est bien la preuve que c'était un projet qui allait au-delà de la question politique et raciale aux États-Unis.
Patrick, Tony Smith a écrit dans son autobiographie que son geste n'était pas le salut du Black Power, pourtant il l'est devenu. Ce geste a finalement, quelque part, échappé à ses créateurs, sa symbolique a tout emporté sur son passage.
Donc ce geste a été commenté de diverses manières. Il s'inscrit surtout dans une logique d'internationalisation du combat des Afro-Américains aux États-Unis. Ils veulent montrer que leur combat est un combat et on est à l'ère de la télévision. Les Jeux sont télévisés seulement depuis 1960 Rome et particulièrement en 68, on a des spectateurs par centaines de millions. C'est assez inédit aussi, c'est pas un hasard s'ils ont choisi le podium olympique. Ça leur permet de passer une alliance en quelque sorte avec tous les opprimés de la planète, pas simplement les Noirs, mais tous ceux qui sont réduits à des situations d'infériorité raciale.
Je racontais qu'en 1968, il y avait déjà eu quelques avancées dans les droits civiques, mais la bataille n'est pas encore gagnée, notamment parce que l'opinion publique est occupée par la guerre froide, la guerre du Vietnam. On était à un moment où les Afro-Américains avaient plus de mal à faire entendre leur voix, non ? Leur mouvement n'était pas autant suivi par l'opinion et ni par les médias surtout.
Vous avez tout à fait raison, Stéphane. C'est vrai que la guerre froide, les logiques politiques des combats ont occulté très largement le combat des Afro-Américains. Il ne faut pas oublier non plus le contexte des mai 68 dans le monde. C'est un contexte de montée de sève de la jeunesse dans le monde entier. Il y a eu des révoltes, bien sûr, à Paris, mais aussi à Tokyo, à Berlin, à Mexico, aux États-Unis. Et on ne doit pas déconnecter le geste de ces jeunes étudiants aussi des revendications des jeunes dans le monde entier. Ça a joué un rôle important. C'est une nouvelle génération qui monte et qui attend de sortir des sociétés patriarcales, racialistes, particulièrement, c'est vrai aussi aux États-Unis.
Le président du CIO de l'époque, Avery Brundage, estimait que les athlètes afro-américains étaient traités à égalité avec les athlètes blancs et que les JO leur offraient une belle possibilité de montrer leur talent. Le sport, est-ce qu'il était vraiment cet espace de liberté pour les Afro-Américains que nous décrit cet ancien président du CIO, ou est-ce qu'il enjolivait un peu les choses ?
Avery Brundage enjolive largement les choses. C'est un milliardaire de Chicago, c'est un suprémaciste blanc. Ah oui. Il est connu pour avoir poussé à la participation des Américains aux Jeux de Berlin 1936. C'est un philo-nazi notoire, proche du Ku Klux Klan. Vous voyez, donc c'est un personnage qui considère que les Noirs ne sont bons qu'à courir. C'est ce que disait déjà Hitler dans les années 1930. Et donc, les cantonner au sport et à la compétition sportive, c'est éviter finalement qu'ils ne surgissent dans d'autres secteurs de la société. Donc effectivement, pour Avery Brundage, les Noirs sont bien à leur place sur le tartan dès lors qu'ils se taisent et respectent ce qu'ils considèrent, lui, être la neutralité olympique.
D'ailleurs, cette année-là, en 68, il y a un collectif d'athlètes noirs américains qui signe une pétition pour réclamer la démission d'Avery Brundage. On lui reproche chez ça, on savait tout ce que vous dites sur ses actions, ses pensées, son combat politique et...
Oui, on le savait. Il avait appelé à voter pour Charles Lindbergh en 1940, celui qui militait pour le rapprochement avec le Troisième Reich contre Roosevelt. On connaissait ses positions racistes au sein du comité olympique américain. Et oui, ça ne faisait aucun doute pour, en tout cas, les athlètes noirs américains. Ils connaissaient bien Avery Brundage et son caractère très tranchant, très autocratique. Ensuite, les archives ont révélé beaucoup plus que ce que l'on savait, mais ce personnage était déjà très identifié, bien sûr.
Suite à leur geste, Tommy Smith et John Carlos ont été radiés des Jeux Olympiques à vie. On leur a retiré leur médaille. Pourquoi ? Parce qu'au fond, ils n'avaient rien fait d'illégal, quand même.
Vous avez raison, Stéphane. Il n'y avait rien dans la charte olympique à l'époque qui interdisait ces gestes-là.
Ils auraient dû prendre un
avocat. Ça apparaîtra ensuite. Oui, mais on se heurte à une sorte de mur juridique dans la mesure où le CIO à l'époque n'a même pas de statut. Et c'est un gentleman's agreement. Ça fonctionne sur la bonne volonté finalement des athlètes du monde entier et des organisateurs. Il n'y a aucun recours juridique possible. Leur exclusion qui a été décidée par le comité olympique américain, mais sous la pression d'Avery Brundage, n'est jamais revenue sur sa décision. Et en tout cas, le CIO lui-même n'a toujours pas fait de place à ses athlètes dans son musée, par exemple.
On les a jamais réintégrés, on leur a jamais rendu leur médaille.
Jamais. Le comité olympique américain les a honorés récemment, et ça a été lié aussi à l'arrivée au pouvoir de Barack Obama, il faut le dire. Mais du côté du CIO, ils sont absents. C'est vraiment la damnatio memoriae. Ils sont sortis de la mémoire olympique. On ne les trouve nulle part dans la revue olympique, nulle part dans le musée olympique. On pourrait attendre aujourd'hui de Thomas Barr, le président du CIO, qu'il fasse un geste. Ce serait nécessaire.
Mais vous connaissez bien le comité international olympique. D'abord, vous habitez les mêmes villes.
Mais vous pouvez leur dire.
Dites-leur à Lausanne.
On leur a dit, on a même donné notre doctorat honoris causa à l'université à Harry Edwards il y a 2 ans. Et on a invité Thomas Barr, il a fait une conférence chez nous il y a 2 ans, pour nous dire qu'il avait lui aussi une grande distance vis-à-vis de l'université, parce que nous, on lui signifiait que, voilà, on n'était pas là pour sanctifier et honorer le CIO, mais pour avoir une relation de distance, et puis aider le CIO aussi, par nos questionnements, à progresser, à servir la cause de l'humanité. Mmh. Et là, on s'est heurté à une fin de non-recevoir.
Est-ce que à ces JO de Mexico, Tommy Smith et John Carlos ont été les seuls athlètes afro-américains à faire un geste de protestation, ou il y a eu d'autres gestes, d'autres événements peut-être moins médiatisés?
Non, mais Mathieu, il y a eu d'autres gestes. Mmh. Les coureurs du relais 4x100 mètres ont aussi fait ce geste-là. Bob Beamon, qui à ce moment-là réalise un record extraordinaire à la longueur, portait de longues chaussettes noires. Mmh. Et puis à nouveau en 1972, à Munich, on aura à nouveau des manifestations là, carrément avec le béret sur la tête, le poing levé à nouveau. Et ces athlètes-là ne seront pas radiés, tout simplement parce que le CIO avait éprouvé la colère des athlètes, mais aussi les réactions de la presse internationale. Donc on est allé plutôt là dans une version assez soft du côté de la réaction. Il faut dire aussi que ces athlètes, Tommy Smith et John Carlos, n'ont jamais embarqué avec eux les sportives américaines de très haut niveau, qui étaient elles aussi des militantes. C'est un geste très masculin dans un univers qui était encore très largement dominé par des mâles blancs.
Bon, il faudrait que ça change, en tout cas que
qu'on les
réintègre.
Ah oui, voilà. Ce serait le minimum. Ouais, c'est fou,
le minimum.
Ça.
C'est ouais. Fou. Ah, franchement.
Ouais, c'est devenu la photographie qui est dans le top 10 des magazines de photographie américains, bien au-delà du sport.
Donc,
c'est une photo patrimoniale. Et le CIO pourrait véritablement prospérer sur sa relecture de son propre passé et dire, ben voilà, on est passé à toute autre chose aujourd'hui.
Ils vont en Chine maintenant. Merci beaucoup Patrick Lastre pour tout savoir sur l'histoire des JO. Je rappelle votre livre « Jeux Olympiques, un siècle de passion » paru aux éditions Les Quatre Chemins. Et vous venez de diriger un ouvrage collectif « Gravir les Alpes du 19e siècle à nos jours » paru aux éditions Presse Universitaire de Rennes. Merci encore.
Merci à vous.
Merci à vous.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans jamais prendre de gants. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, des gants, elle n'en prenait pas non plus. Vous nous racontez l'histoire d'Elizabeth Stokes, entrée dans l'histoire de la boxe sous le nom de Lady Bear Knuckles, la dame aux doigts nus.
Oui, entre autres, vous savez que bien sûr que, comme les hommes, hein, les femmes se crêpent le chignon et se battent depuis la nuit des temps. Vous vous souvenez que je vous ai raconté comment les filles spartiates apprenaient la lutte, comme les garçons naturellement. Mais la boxe est une discipline bien plus récente, en particulier pour les femmes. Et c'est à partir du XVIIIe siècle en Angleterre que des boxeuses commencent à se faire une réputation, à commencer par cette Elizabeth Stokes dont vous parliez à l'instant, entrée dans l'histoire de la boxe sous le nom de Lady Bear Knuckles, la dame aux doigts nus. C'est l'Angleterre des années 1720 et elle est une vraie vedette. C'est une boxeuse absolument exceptionnelle et on peut la voir se battre à main nue dans les rues de Londres. Cela dit, évidemment, elle ne le fait pas par plaisir, elle le fait pour survivre, pour gagner les quelques guinées qui vont lui permettre de ne pas sombrer dans la mendicité. Il y a une exception notable, c'est celle de Lady Barrymore. C'est une baronne qui pratiqua la boxe pour garder la forme et pour divertir son époux. Il trouvait ça drôle de voir sa femme se battre. Mais la boxe a d'abord et avant tout été un sport populaire. Vous savez comment Vidocq appelait la boxe? Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Il appelait ça l'escrime des truands.
C'est
une belle définition. Il va y avoir en matière de boxe une étape importante, c'est quand le marquis de Queensberry fait de la boxe anglaise un sport pour les hommes du monde. Et c'est lui qui va codifier ce qu'on appelle le noble art. Donc on quitte complètement cette idée d'un sport populaire et un sport de rue. Le sport devient codifié, mais il est totalement masculin. Dans ce beau monde, l'idée qu'une femme puisse s'adonner à cette pratique est absolument choquante. Ces exhibitions de femmes musclées qui se débraillent et se livrent à un vulgaire crépage de chignon, voilà qui est du plus mauvais goût. La boxeuse, dans le beau monde, est considérée comme un phénomène de foire et la boxe, jugée violente et vulgaire, va longtemps rester interdite aux femmes. Donc une femme comme Lady Bear Knuckles, c'est vraiment, vraiment une exception. Lorsque les organisateurs des Jeux Olympiques de 1904 à Saint-Louis aux États-Unis propose d'organiser un simple match d'exhibition de boxe féminine, cela provoque une levée de boucliers sans précédent dans toutes les fédérations nationales et aucune d'entre elles n'accepte d'ouvrir ce sport aux femmes. Après, c'est, vous voyez, Polly Fairclough Burns, si j'arrive à prononcer son nom convenablement. Et après, la dame aux doigts nus, la seconde boxeuse anglaise un peu connue, elle s'appelle en fait Marie-Agnès Taylor. Elle serait née en 1880 à Whitehaven dans une famille de forains. Et sa mère meurt dans un terrible accident de trapèze. Donc son père se remarie et il épouse en seconde noces une femme qui est issue d'une lignée de lutteurs renommés, les Fairclough. Et c'est comme ça que Polly, dès qu'elle est gamine, monte sur les rings. Elle monte sur le ring à l'âge de 16 ans. Et elle devient une boxeuse connue. Et elle fait aussi de la lutte gréco-romaine, d'ailleurs. Elle est la première femme autorisée à se battre au National Sporting Club de Londres. Et on dit qu'elle se serait mesurée à Dublin à Jack Johnson, un colosse d'1m92, véritable idole de la communauté noire aux États-Unis. Donc les femmes à l'époque, de toute façon, c'est pas le sport pour les, la boxe pour les femmes, c'est pas du tout institutionnalisé, c'est pas du tout codifié. Donc elles se battent contre les hommes. Alors, elles se battent aussi contre les femmes. Il y a une sorte de championnat du monde privé. Elle met au tapis l'américaine Texas Mamie, parce qu'aux États-Unis,
Texas Mamie.
C'est drôle, ouais. Ça.
Les Américains aiment la boxe. Ils ont pas du tout d'inhibition, de problème avec ça, hein. Et en 1913, Polly livre un combat avec le petit géant de Hanovre, qui n'est autre que l'Irlandais Tommy Burns, ancien champion du monde poids lourd de 1906. Donc Polly n'a pas froid aux yeux, hein. Elle se bat contre ce gars-là, mais en se battant, évidemment, qui aime bien, châtie bien, comme on dit. C'est le coup de foudre.
Elle tombe amoureuse.
Coup de foudre. Polly lâche les gants de boxe, son épouse reconvertit.
Mais pas pendant le match, quand même.
Elle a dû le faire déguster. Et ensuite, eh bien, lui, il va se spécialiser dans l'organisation de tournois et il a des revenus confortables. Donc, il installe Mrs. Burns dans un quartier paisible où elle va se faire installer une très jolie volière et s'occuper de ses oiseaux. Pour elle, c'est fini, les rings de boxe, la sueur et les coups. Mais, voyez, s'il y a des championnats féminins qui vont voir le jour hors des circuits officiels, dans des cabarets à Londres, à Paris, c'est au casino de Paris qu'on peut voir de la boxe et un peu de boxe féminine. Mais au lendemain de la guerre, dans un pays comme la France, par exemple, le Conseil de la Fédération française de boxe déclare que la pratique de la boxe n'est pas à encourager pour les femmes et qu'il leur est interdit de participer à des assauts, matchs ou compétitions de boxe. Et dans ces conditions, le premier championnat de France féminin ne va se dérouler qu'en 1988. 95 et 96 verront les premiers championnats féminins d'Europe et du monde. Et savez-vous en quelle année la boxe féminine est rentrée sur la scène olympique ?
Alors plus tard encore ?
En 2012.
C'est fou.
Ah oui, hein, ça paraît bizarre.
Bah,
oui, oui, oui. 2012. Donc, vous voyez, la boxe féminine vient de très loin et n'est entrée que très récemment dans les habitudes sportives où on considère des femmes ne doivent pas se taper dessus.
Et aujourd'hui, en revanche, les femmes n'affrontent plus les hommes sur un ring. Il y a deux catégories, c'est séparé, hein, c'est plus mixte comme sport.
Ah mais non, on va pas mettre une polyme contre un champion du monde poids lourd, non.
Ce n'est plus mixte, sauf au moment du quiz, le seul combat de boxe.
Là, tous les coups sont permis.
À main nue, tous les coups sont permis, un homme contre une femme, c'est tout de suite le quiz.
Europe 1, historiquement vôtre.
C'est fou comme un simple quiz peut venir à bout des plus solides amitiés. Jadis cul et chemise, désormais Stéphane fait mine de ne plus connaître Clémentine, qui, elle, n'hésite plus à le menacer frontalement.
Qui êtes-vous ?
Ton pire cauchemar.
Jouons à perdre de vie à la.
C'est
ça.
C'est qui on appelle cul et chemise entre nous ?
Non, c'est qui ?
Ben, c'est Bernard-Henri Lévy et Ariel Dombal. C'est leur surnom.
C'est vrai ? Cul et chemise ? Je n'avais pas eu vent de ça,
ah
Stéphane.
Bon, mais comment vous le savez ?
C'est vieux.
Et donc,
quand c'est mieux, vous le savez.
Oui, voilà. J'adore.
Question numéro 1, Stéphane, elle est pour vous. Les photos officielles des présidents de la République française sous la 5e sont devenues assez représentatives de l'empreinte que souhaitent laisser les hommes politiques de leur mandat. Ainsi, le très désirable Emmanuel Macron a pris la pose le 24 juin 2017. Sur la photo, on y voit le livre des mémoires de guerre du général de Gaulle. L'ouvrage est-il ouvert ou fermé ? Vous avez cette photo à t'y regarder au-dessus.
Non, cheminée. Comment voulez-vous que je sache ce détail ? Je sais qu'il est devant la fenêtre
que derrière.
Le livre est posé.
Le livre est posé.
Mais est-il ouvert,
fermé. Je crois qu'il est fermé.
Il est fermé, je crois.
Il est fermé.
Vous avez perdu.
J'ai le président de la République en ligne, il est très choqué, Stéphane, que vous n'ayez pas regardé son portrait dans le détail. Le livre est ouvert. En revanche, le livre des nourritures terrestres de Gide est, lui, fermé. Coïncidence ? Je ne le crois pas. Question numéro 2 pour vous, Clément. Le capitaine Wilfred Neville était officier de l'infanterie de ligne de l'armée britannique durant la Première Guerre mondiale. Excentrique, il a mené des assauts durant la bataille de la Somme avec un nez rouge de clown accompagné par plusieurs de ses camarades. Vrai ou faux ?
Non. Est-ce que ça n'était pas un joueur de cornemuse ou alors un... Non, il n'aurait pas chargé avec un nez rouge. Il y a une forme de... je trouverais ça assez choquant parce que la guerre n'est pas...
Un temps pour la guerre.
Oui. Non, je réponds non.
Vous avez...
Et c'est une bonne réponse, mais vous avez eu de la chance. Car l'histoire est encore plus folle et triste à la fois. Son bataillon était composé de volontaires. Pendant une permission, voyant le moral des troupes baisser, il achète, donc ce capitaine Wilfred Neville, il achète des ballons de foot. Et pendant un assaut, sur 275 mètres, il fonce jusqu'aux lignes allemandes en se faisant des passes de ballon, comme au foot. Le capitaine Wilfred Neville, dans les tranchées de Montauban, se fait tuer à quelques mètres des barbelés allemands. Il aurait eu 22 ans deux semaines plus tard. Terrible histoire, tragicomique, on peut le dire. Et donc vous avez marqué le point, sans le vouloir, par inadvertance presque. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Qu'est-ce qu'il y a, Stéphane ?
Il est décédé dans les tranchées.
Mais vous n'avez pas de questions. Comment vous savez ? Vous avez accès aux questions à l'avance ? Pourquoi ? Ah, par rapport à votre première question. Alors attendez, on reste dans une question président de la République. Vous voyez Albert Lebrun ?
Oui.
Vous voyez Raymond Poincaré ?
Oui.
Lequel des deux refusait catégoriquement d'entrer dans une église ?
Ça me paraît plutôt Raymond Poincaré, parce qu'Albert Lebrun, c'est plutôt les années... C'était la fin de la... Bon, c'est la 4ème République même, puisqu'il était là...
C'est postérieur, donc il n'y avait peut-être pas la même agressivité,
vis-à-vis de l'Église.
Anticléricale.
Oui,
Quel est celui, le seul président protestant, c'est pas Doumer, non ? Donc c'est pas pour cette raison-là. Il paraîtrait plus logique dans le temps que ce soit
le roi Georges VI et nanana. Dans les années 30, il était président dans les années 30, Albert Lebrun. Je dirais Raymond Poincaré.
Vous avez gagné.
Magnifique. On va exagérer non plus. Nouveau jingle pour célébrer une bonne réponse, c'est Raymond Poincaré. Et vous avez raisonné de manière assez logique. Mais quant à Albert Lebrun, il allait au contraire régulièrement à la messe. Il est du Finistère, il paraît que dans le Finistère, on aime la messe. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Istanbul a été Constantinople, puis aussi Byzantion, voire même Byzantium. Quand Enrico Macias est né, comment s'appelait cette ville ?
Alors, Enrico Macias, il doit être né dans les années 30.
Quelle ville ?
Je dirais Constantinople.
Constantinople.
Comment s'appelait Constantinople au moment ?
Constantinople s'appelait déjà Istanbul, je pense.
Où Enrico Macias est né ?
Ça a été baptisé Istanbul par Atatürk, me semble-t-il. Donc
il est né en 30, oui.
Il est né dans les années 30, Enrico Macias. Moi, je dirais peut-être
Je savais pas qu'il était né là, Enrico Macias. Je pensais qu'il était né...
Mais je n'ai jamais dit qu'Enrico Macias était né là-bas.
Moi, je pensais qu'il était né en Algérie.
C'est juste une question
spatio-temporelle
déconnectée d'Enrico Macias.
Mais moi, je pense que ça s'appelait Istanbul.
Vous pensez que ça... Vous dites Istanbul.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné. Istanbul est Istanbul depuis 1930. Or, quelle est la date de naissance exacte d'Enrico Macias ?
Moi, je dirais un peu... 32. Je dirais 32, moi. Un truc comme ça.
C'est une mauvaise réponse. Un point vous est subtilisé. Égalité, nous allons passer à l'ultime question du jour. Oh, c'était un beau combat.
Alors, quelle est l'année de naissance d'Enrico Macias ?
1938, à Constantine, en Algérie, ce qui n'a rien à voir.
Oui, Constantine. Constantine.
Oui.
Il a confondu Constantine.
Vous croyez que j'avais confondu, je pensais. Vous me voyez tellement nul.
C'est malin, c'est pervers. Constantine.
Un jour, on devrait vous poser les questions que vous nous posez, et là, les gens découvriraient la vérité.
Les gens qui nous suivent jusqu'au bout de cette émission entendent la lutte finale et ils voient bien que je suis nul. Question numéro 5, elle va vous départager. Albert Camus nous a quittés à 46 ans. Il a épousé Simone Yé, puis Francine Faure. On lui connaît également une liaison avec l'actrice Maria Cazares, puis une étudiante américaine Patricia Blake, également la comédienne Catherine Sellers, et enfin une Danoise, Mademoiselle Ivers, qu'il a rencontrée à la terrasse du Café de Flore. Mais avec qui était-il à cette terrasse, Albert Camus? 4 possibilités. Il était avec Jean-Jacques Sempé, avec François Truffaut, avec Pierre Bénichoux ou avec Mobutu.
1.
Alors, qui m'a dit
Sempé.
Sempé, vous vous dites Sempé, Truffaut, Bénichoux, Mobutu. Truffaut. Vous
ouais,
dites Truffaut
c'est un peu tôt. Non, Sempé, ça doit être Sempé.
C'est une double mauvaise réponse. Vous avez une autre opportunité.
2. Mobutu.
3.
Mobutu.
Mobutu.
C'est une mauvaise réponse.
Alors, Pierre Bénichoux.
Pierre Bénichoux, oui, Stéphane, il y était. Il était à la terrasse du Flore ce jour-là. Il avait pris un café crème. C'était magnifique. Bravo, Stéphane.
Ouais, je savais.
Le pilier de bar de ce bistrot, c'est Jacques Sempé. Hein.
Oui, je sais, mais malheureusement, dans cette anecdote, voilà. Ça concerne Pierre
Donc
Bénichoux.
Donc, il était avec Pierre Bénichoux.
Il était, alors, Maître Ivers, qui sera le dernier amour de Camus avant son accident. Camus demandera à Bénichoux d'aller voir la Danoise pour l'inviter à sa table.
Ah,
aujourd'hui,
oui.
Elle s'appelle Maître. Elle a 88 ans. Elle a été illustratrice et elle a eu un enfant avec le dessinateur Sempé.
Tout se recoupe.
Et oui, tout le monde était au Café de Flore.
C'est à tout le monde de se retrouver au Café de Flore.
Évidemment.
Et tout le monde.
C'était la
chapeau, belle. C'est du joli.
Chapeau,
oui.
C'est du joli. Hein.
Mais c'est une belle victoire, Stéphane.
On avait, oui, enfin belle, faut pas
être. Alléluia.
Alléluia. 16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, 2 heures où détente zygomatique rime avec musculation cérébrale, puisque chaque après-midi on vous raconte l'histoire sans se la raconter, et toujours le point levé.
Surtout aujourd'hui, Mathieu, puisque en effet nos personnages ont tous ce point commun d'avoir vécu le point levé.
Mais vivre le point levé, ça doit être compliqué quand même dans la vie de tous les jours.
Non, alors Mathieu, je vous explique. Ils l'ont levé quand ils l'ont jugé nécessaire. Après Tommy Smith et John Carlos, les athlètes qui ont revendiqué leurs droits et ceux de leur communauté afro-américaine lors des JO de Mexico 68, je vous raconte le destin hors norme de Nelson Mandela. Des geôles sud-africaines jusqu'à la présidence de la République, un point levé dans un pays qu'il a relevé. Bon, quant à vous Mathieu, on en apprendra un peu plus sur vos goûts musicaux.
Oui.
Après Tarkan et les Toubisseries, aujourd'hui...
Eh ben, Amel Bent, Stéphane. Amel Bent, évidemment. Ça vous plaît, Amel Bent, hein, Stéphane? Là, je me sens vraiment...
Ben oui, on l'a entendu et c'est vrai qu'elle nous trotte dans la tête, cette
Mais
chanson,
bien
oui.
sûr, bien sûr, elle n'a pas peur. C'est quelqu'une, elle a vécu, elle aussi, le point levé, un peu comme le bon ami de David, Fisto, qu'on embrasse.
Je boule, peut-être, moi, je vais éviter. Alors, justement, vous évoquez David Cassel-Lopez, il est là, sans Fisto, mais avec un très bon ami à lui... Puisque David, vous nous racontez les origines du calendrier gourmand de l'Avent.
Oui, alors il n'est pas nécessairement gourmand.
Mais nous, on l'aime gourmand.
Le chocolat.
Exactement. Et donc oui, bah, d'où ça vient, c'est cette chose quand même géniale de l'enfance et de l'âge adulte.
C'est une belle tradition.
Je vous le dirai.
Olivier Poul, c'est avec nous Stéphane. Regardez comme il est beau.
Ah oui.
Regardez, certainement manger du céleri rémoulade.
Et à la date du jour, quand on ouvre le calendrier gourmand, paf, un petit céleri rémoulade.
Et là, c'est la déception.
Non, c'est pas la déception.
On a envie d'ouvrir la case après.
Mais c'est bon, et je vous donnerai la recette de la vraie rémoulade. Oui. Je vous raconterai l'histoire assez étonnante de cette sauce.
Ouais.
Dans la dernière ligne droite de cette émission, il ne suffira pas de viser la lune et d'y croire encore et en cœur. Il faudra surtout se creuser la cervelle. À la recherche de la bonne réponse, je vous donne rendez-vous pour la lutte finale. Ce quiz qui vous permet de savoir qui dans l'équipe est le moins nul en histoire. Un indice, ce n'est pas moi. Mais pour le moment, découvrons notre deuxième personnage du jour.
Europe 1.
16h, 18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Le bras dressé vers le ciel, le poing serré, il est l'un des points levés les plus célèbres du XXe siècle, celui d'un homme qui en fut l'un des derniers grands héros. Des geôles sud-africaines à la présidence, Stéphane Bern nous raconte Nelson Mandela.
Aux alentours de 16h, ce 11 février 1990, des dizaines de journalistes, majoritairement blancs, et des centaines de Sud-Africains, principalement noirs, attendent fébrilement devant la prison de Witwatersrand, à 60 km au nord de la ville du Cap, en Afrique du Sud. C'est pour aujourd'hui, peut-on entendre dans la foule impatiente, après 27 années d'enfermement, il devrait enfin être libéré. Il, c'est Nelson Mandela. Et enfin, Il apparaît grand, élégant dans son costume gris. Il s'avance lentement du haut de ses 71 ans, tenant fermement la main de celle qu'il a soutenue depuis leur mariage en 1958, sa femme Winnie. C'est elle qui, la première, lève le poing pour saluer la foule. C'est lui qui, quelques secondes plus tard, l'imite à son tour. Nelson Mandela lève un bras, puis les deux, les doigts serrés vaillamment dans la paume en signe de victoire. Le poing érigé vers le ciel, la tête relevée face à ses anciens bourreaux, les pieds déterminés à ouvrir la voie à une nouvelle ère sud-africaine, celle de la liberté. Mais cette folle journée, après 27 années d'incarcération, est loin d'être terminée. Arrivé à l'hôtel de ville du Cap où des milliers de sympathisants l'attendent euphoriques, Nelson Mandela tarde à prendre la parole. Quels seront ses premiers mots d'homme libre? Et quand enfin, le poing levé une nouvelle fois, il s'avance vers le micro, voici ses paroles.
A march towards freedom and justice.
La marche vers la liberté et la justice est irréversible. J'ai beaucoup parlé de liberté au cours de ma vie. Votre lutte, votre dévouement et votre discipline m'ont permis de me tenir devant vous aujourd'hui.
Ce dévouement au service des Sud-Africains habite Nelson Mandela depuis son enfance. Il naît le 18 juillet 1918 à Mvezo, un petit village du Transkei, une province du sud du pays. Ses parents lui donnent le nom de Roliala Mandela, qui signifie, cela ne s'invente pas, le secoueur d'arbres ou le fauteur de troubles. Son père, qui est chef du village, refuse un jour de se soumettre aux représentants coloniaux. Il perd alors son travail, son bétail, une grande partie de ses terres et doit envoyer femmes et enfants à Kunu, un village très modeste. La famille habite alors de simples huttes en briques, debout séchées. Mandela a pour seul habit une couverture rouge, il se nourrit de bouillie de blé, de haricots et de lait. Sa principale occupation est de garder les moutons et les vaches et de se bagarrer avec les autres enfants. Son père, qui souhaite voir son fils aîné accomplir de grands desseins, l'envoie à l'école. C'est là que la maîtresse, comme le veut la tradition, lui donne le nom anglais de Nelson, un nom qu'il ne quittera plus jamais. À la mort de son père, le petit Nelson est envoyé vivre à une journée de marche dans la résidence royale de la tribu Tembu. Là, il écoute consterné lors des veillées autour du feu comment les Hollandais et les Anglais ont pillé et colonisé son pays. Au fil des années, Mandela comprend vite que pour espérer un jour vivre librement, il va devoir faire montre d'une extrême pugnacité. Nelson Mandela adhère totalement à la résistance non violente de Gandhi qu'il admire. Alors, après des études de droit, il devient le premier avocat noir inscrit au barreau de Johannesburg. Avec son associé Olivier Tambo, ils défendent tous ceux qui sont victimes de discrimination. Car depuis 1948, le racisme ne se cache plus, il est inscrit dans la loi. Le Parti national met en place l'apartheid. Cette politique ségrégationniste part du postulat que les blancs et les non-blancs, donc les noirs, les métis, les asiatiques, ne doivent pas se mélanger. Ainsi, les non-blancs n'ont pas le droit d'habiter où ils le souhaitent. Ils sont regroupés dans des quartiers pauvres, les townships, à la périphérie des villes. Ils ne peuvent circuler librement, doivent porter un laissez-passer en permanence sur eux. Leurs enfants ont interdiction de fréquenter les mêmes écoles que celles des enfants à la peau blanche. Pourtant, les blancs ne représente que 10% de la population sud-africaine. Pour Nelson Mandela, la situation est insupportable. Il adhère très rapidement à l'ANC, un parti politique qui veut éradiquer cette ségrégation raciale. Il organise des campagnes de désobéissance civile où des milliers de manifestants détruisent leur laissez-passer. Il incite les militants à monter dans des wagons réservés aux blancs, à sortir en dehors du couvre-feu. Mais en 1960, à Sharpeville, la réponse des policiers est sanglante. On déplore 180 blessés et près de 69 morts, parmi eux 29 enfants. Pour Nelson Mandela, c'en est trop. Il faut à présent passer à une méthode de résistance plus musclée. Quelques mois plus tard, Nelson Mandela est nommé commandant de la Lance de la Nation, une armée de rebelles qui fait sauter des conduites d'eau ou des centrales électriques, des militants qui placent des explosifs sous les voitures de police. Mandela, qui a déjà été emprisonné une première fois pour ses liens avec l'ANC, vit à présent dans la clandestinité, joue au jeu du chat et de la souris avec les autorités. Il tombe finalement dans un guet-apens policier en 1962. Arrêté, Mandela, comme 19 de ses camarades, est condamné à la prison, à perpétuité. C'est sous le matricule 46-664 qu'il entre à l'hiver 1964 au bagne de Robben Island. dans une cellule de 2,50 m sur 2,70 m, si petite qu'il peut à peine s'allonger pour dormir, alors qu'une ampoule éclaire la pièce nuit et jour, sans discontinuer. Chaque jour, Mandela reçoit des crachats et des insultes des gardiens. Lui qui se soumet au travail forcé dans une carrière de la région où il passe ses journées à casser des cailloux sous un soleil de plomb. On n'autorise à écrire qu'une seule lettre de 500 mots tous les 6 mois. On lui refuse même d'assister à l'enterrement de sa mère, puis de son fils. Mais Mandela, au lieu de s'effondrer, résiste comme personne ne l'aurait imaginé. Il serre les dents et le poing. Pendant 27 ans, transféré de prison par 2 fois pour finir à Victor Verster, il continue de se former au droit. Il écrit son autobiographie aussi. C'est lui qui négocie avec Frédéric de Klerk, Paris réussi. Le 2 février 1990, le président sud-africain annonce devant le Parlement la levée de l'interdiction de l'ANC et la libération de tous les prisonniers. Et le 10 mai 1994, Mandela est officiellement élu président de la République, devenant le premier homme noir à accéder à cette fonction. L'Afrique du Sud est un pays où vivent beaucoup de races différentes. Il y a une place pour chacune d'entre elles, déclare celui qui a reçu quelques mois avant son élection le prix Nobel de la paix. Un homme, un héros qui a parcouru un long chemin vers la liberté et celle de son peuple en premier.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Nelson Mandela, nous sommes avec la politologue Marianne Séverin. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Marianne Séverin. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheuse associée au laboratoire de Sciences Po Bordeaux sur les Afriques dans le monde. Et vous avez notamment co-dirigé l'ouvrage « Afrique du Sud, 20 ans de démocratie contrastée » paru chez l'Harmattan. L'histoire a retenu Nelson Mandela comme figure de la lutte contre l'apartheid. Mais il n'était pas seul dans cette lutte, évidemment. En quoi, lui, s'est-il démarqué des autres combattants contre l'apartheid, selon vous?
Selon moi, ce sont ses discours, ce sont ses prises de position qui ont fait que il a été mis devant, sur le devant de la scène, mais toujours avec des décisions collégiales, parce que lorsqu'on parle de Nelson Mandela, il faut toujours avoir à l'esprit que ce n'est pas un individualiste, il travaille, il parle beaucoup avec ses camarades qui mènent la lutte anti-apartheid.
Lorsqu'il sort de prison en 90, Nelson Mandela retrouve son épouse Winnie, qui est la première à lever le poing en signe de victoire. Quel rôle a été le sien dans la lutte contre l'apartheid?
Alors, le paradoxe, c'est qu'avant d'épouser Nelson Mandela, Winnie Mandela, en fait, n'avait pas pour idée de s'engager en politique. Et puis, le mariage a fait que, finalement, elle s'est retrouvée face à une situation pénible parce que la police l'a harcelée. Vous imaginez bien que lorsque son mari se retrouve à Robben Island, justement, régulièrement, elle est harcelée, elle est bannie, elle est, je pense, parfois torturée. Tout ça a forgé, en fait, et puis ce qu'elle voit aussi en Afrique du Sud, la situation de son peuple, tout ça a forgé sa conscience politique et a donné ce qu'on connaît de Winnie Mandela.
Je racontais que Nelson Mandela a été le tout premier avocat noir à s'inscrire au barreau de Johannesburg. Comment cela se fait-il? Est-ce que les Noirs n'avaient pas le droit d'aller à l'université, de faire des études de droit? Et si c'est le cas, pourquoi lui, particulièrement, a réussi à le faire?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant l'apartheid, les Noirs avaient le droit de faire des études. Bon, s'ils avaient les moyens, naturellement. Donc, en règle générale, ceux qui appartiennent à la génération de Nelson Mandela avaient une scolarité dans des institutions dites religieuses. Donc, il a fait du droit. Et puis, il a pu aussi aller dans une université qui a été considérée par la suite blanche. Donc, il a pu finalement suivre des études d'avocat, mais avant cette période dramatique de l'apartheid, et rencontrer aussi ce que j'appelle des non-noirs, donc des blancs qui menaient aussi la lutte anti-apartheid.
Stéphane racontait dans le récit que Mandela était un fervent partisan de la non-violence, mais pourtant il a fini par adhérer à l'ANC, le Congrès National Africain, qui a des actions beaucoup plus frontales et violentes. Donc, il s'est rendu compte à un moment qu'il ne pouvait pas mener sa lutte sans violence.
Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que avant de mener la lutte anti-apartheid de manière violente, Mandela est déjà membre de l'ANC depuis le début des années 40. Mmh. Quand on parle de la lutte violente, c'est à partir des années 60. Cette lutte violente, pas contre le peuple blanc sud-africain, mais contre finalement les institutions.
avant sa longue incarcération, Mandela était déjà allé en prison pour ses liens avec l'ANC. L'ANC, c'était considéré comme un parti illégal ou même terroriste ?
Ce parti a été considéré comme un parti communiste, ce qui est assez ironique puisque ce n'était pas le cas. Donc tout parti en fait qui était contre le gouvernement d'apartheid était considéré comme un mouvement, comme un parti, comme une organisation d'opposition communiste. Donc le parti était frappé d'une loi interdisant toute participation politique. Donc le parti, mais également ses membres. Ses membres. Et c'est une des raisons pour laquelle il s'est retrouvé en prison, et notamment parce qu'il a participé à ce qu'on appelle le Congrès du Peuple dans les années 50, qui a écrit et adopté ce qu'on appelle la Charte de la Liberté. C'est cette fameuse Charte de la Liberté qui, finalement, transposée à la constitution sud-africaine actuelle, c'est le cœur même de cette fameuse constitution sud-africaine post-apartheid.
Mais comment, lorsqu'il était emprisonné, comme je racontais, Nelson Mandela a-t-il pu négocier avec le président sud-africain Frédéric de Klerk, qui vient de décéder d'ailleurs, et ce qui mène à sa libération ? Comment tout cela a été rendu possible ?
Les négociations que nous avons connues au début des années 90, finalement, elles ont commencé dans le secret, à la fois avec son camarade Oliver Tambo qui est en exil, mais également avec les compagnons qui sont en prison. Tout ça, ce sont des négociations secrètes qui ont abouti à, finalement, lorsque de Klerk est arrivé au pouvoir, à ce que l'apartheid soit définitivement interdit, entre guillemets. Mais en gros, la vérité, c'est que l'apartheid ne pouvait plus s'offrir l'apartheid.
Nelson Mandela devient ensuite le premier président noir de cette nouvelle ère sud-africaine. Qu'est-ce qu'il a fait, au fond, pour réparer près de 50 ans d'apartheid, sachant qu'il n'avait pas d'expérience du pouvoir ?
Alors déjà, je vous ai parlé de la Constitution parce que c'est le cœur même de la démocratie sud-africaine. Il a essayé de mettre en place un programme permettant aussi de rétablir l'équilibre entre ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres. Mais soit dit en passant, Nelson Mandela officieusement n'a gouverné que jusqu'en 1997. Il a passé la main à celui qui va lui succéder, Thabo Mbeki. Donc, finalement, Nelson Mandela a été président pour rassurer la communauté internationale, oui, et puis pour éviter qu'il y ait un conflit entre les Noirs et les Blancs.
Merci beaucoup, Marianne Séverin. Je rappelle que vous avez co-dirigé l'ouvrage Afrique du Sud, 20 ans de démocratie contrastée, publié aux éditions L'Harmattan. Merci encore.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages qui ont toujours le poing levé. Après Nelson Mandela, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'une chanteuse française qui elle aussi s'est fait connaître pour son poing levé.
Viser la lune, ça vous fait pas peur, Stéphane ?
Bah non.
Des sacrifices, s'il le faut, vous en feriez, vous en avez déjà fait.
Ah oui.
Eh oui, bah déjà, acceptez de bosser avec moi, c'est vrai. Eh bien c'est clair, vous êtes complètement Amel Bent.
Je n'ai qu'une philosophie, être accepté.
Elle n'a qu'une philosophie, mais quelle philosophie, les amis. Amel Bent, c'est évidemment ce tube immense, vendu à plus d'un million d'exemplaires, mais c'est aussi, vous allez voir, l'histoire parfois rude d'une femme qui n'est pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Un portrait où nous aborderons des thèmes un peu durs, comme la perte d'un enfant et l'emprisonnement d'un mari.
D'accord, on va beaucoup s'amuser, je le sens.
Amel Bent, surnommée un temps la princesse du R&B français. Non, ne riez pas Stéphane, on l'a vraiment surnommée comme ça. C'était même le titre d'un portrait dans Libé en 2007. Amel Bent a changé notre conception du point levé. Avant son tube, le geste du point levé était réservé à une seule et unique chanson.
C'est la lutte finale.
Jusqu'à l'irruption donc sur les ondes de cet hymne philosophique nous invitant à nous aimer comme nous sommes. Alors évidemment, c'est pas du Kierkegaard, mais c'est fédérateur. Et c'est une philosophie qu'Amel Bent s'est forgée au fil de l'expérience. Née en 1985 à Joué-lès-Tours, en Indre-et-Loire, d'un père algérien et d'une mère marocaine. Puis elle déménage à La Courneuve. Vous avez déjà visité La Courneuve, Stéphane ?
Je vais faire mourir.
N'exagérez pas non plus, Stéphane. C'est pas Saint-Germain-en-Laye, c'est sûr. Il faut imaginer les jardins du château de Versailles avec moins de verdure, moins de château, moins de Versaillais. Et vous avez une image de ce qu'est à peu près La Courneuve. Marquée par le divorce de ses parents, Amel habite seule avec maman, mais même pas dans un petit appartement. On a commencé toutes les deux à vivre une période de galère. Ma mère n'avait plus vraiment d'appartement, alors on a vécu de foyer en foyer, chez des gens. Bien qu'elle dise n'avoir jamais manqué d'amour, Amel garde, on le sent, un certain traumatisme de ses années de précarité. On peut imaginer que son engagement fervent auprès des Restos du Cœur est en lien avec cette période difficile. Heureusement, la musique est pour elle un refuge. Avec sa maman, elle apprend par cœur le répertoire d'Aznavour, qui devient son idole.
Visez ma lune, ça me fait pas peur, même... Oh, je me souviens plus de la fin.
Ici, un extrait de l'album, malheureusement, qui n'a pas été sorti, de Charles Aznavour, chante Amel Bent. Sa mère finit par trouver un appartement et Amel sera élevée par sa mère et sa grand-mère, dont elle sera toujours très proche. Vive et débrouillarde, elle devient, dès l'âge de 15 ans, ce qu'on appelle, de façon un peu réac, l'homme de la maison. Amel bricole, s'initie à la plomberie, monte les meubles et commence déjà à se produire en public en fréquentant une MJC de quartier. Côté études, Amel vise un bac S et pourquoi pas des études de psychologie, mais voilà, en 2004, sa vie bascule. Elle participe au télécrochet en vogue de l'époque, Nouvelle Star. Pour les millennials qui nous écoutent, Nouvelle Star, c'était une émission où des inconnus tentaient leur chance devant un micro.
C'est l'apérobic.
Voilà.
Ah, la gym.
Voilà.
Ah, moi,
au bout de 5 secondes. Voilà. Surtout s'ils étaient belges, Dovatia les coupait en disant sèchement.
Je crois que vous êtes une très bonne chanteuse, les deux karaokés.
Ceux qui chantaient correctement avaient droit aux louanges de Marianne James, qui parlait très fort, et aux digressions d'André Manoukian, qui citait des poètes moldaves saupoudrés d'allusions salaces. Julien Doré portait des barrettes, Christophe Willem se faisait surnommer la tortue à cause d'une scoliose. Voilà ce qu'était, en grosso modo, la nouvelle star. Amel Bent se présente comme candidate et sort troisième du concours, remporté cette année-là par celui qui allait devenir une star mondiale, Steve Estatoff. Amel sort très vite un album baptisé Un jour d'été, qu'elle ne voit aucun problème à sortir au mois de novembre. Le succès est immédiat, plus de 200 000 exemplaires vendus pour l'album, 500 pour ce bijou.
Je n'ai qu'une philosophie.
Alors, qu'est-ce que vous dites, Stéphane, quand vous entendez la musique d'Amel Bent ?
Elle est très sympathique, par ailleurs.
Voilà, pourtant, certains l'aiment aussi pour sa musique et son message. Restez le point levé, quoi qu'il arrive, en dépit des injustices et des absurdités de cette chienne de vie qui fait dire parfois à David...
Non mais hashtag j'en peux plus, quoi.
Voilà, après, question engagement, Amel, c'est pas Mandela non plus. Hein. Il y a les restos, bien sûr, mais pas de prise de position tonitruante par ailleurs. Sa carrière connaîtra un creux, puis elle reviendra sur le devant de la scène en 2013 sur un foxtrot. Danse avec les stars lui permettra de se rappeler aux bons souvenirs des téléspectateurs alors que Ma philosophie commençait à passer sur Nostalgie. La même année, elle devient égérie Weight Watchers. Les fans qui aiment le R&B et le Moyen-Âge et Philippe de Villiers auront en outre la joie de la voir dans le show Les stars voyagent dans le temps au Puy du Fou. C'était très sympathique apparemment. Enfin, on la retrouve dans l'album Génération Goldman, le premier album qui rend hommage à un chanteur vivant. Ça donne ça.
Je te donne mes dents, je te donne ma voix.
Ou encore... Elle finit épuisée.
Et sourde.
Et sourde aussi, oui, certainement la reprise. Et en plus, la reprise aurait dû s'appeler Quand la musique est forte, surtout. Néanmoins, Amel a relevé son pari. Elle est revenue dans le cœur des Français. Et hélas, pour elle, pas que dans le cœur, puisqu'en 2014, petit traumatisme, à la suite d'un cambriolage, des photos perso d'elle en petite tenue sont diffusées sur le net. On l'y voit.
Toutes nues.
Oui.
Toutes nues.
Toutes nues. David, visiblement, vous êtes allé voir ça. Petit traumatisme, pas grave. Hein. Amel sait gérer les coups durs. Sa vie sentimentale est un vrai roller coaster avec des type que la grand-mère de David qualifierait de peu recommandable, un certain Moussa qui sera incarcéré suite à un petit écart malheureux, je lis, assassinat. Ah oui, quand même, oui, assassinat. Et étonnamment, elle se séparera de lui pour épouser Patrick.
Merci pour...
Alors non, pas celui-ci, un Patrick, on va dire, anonyme, qui lui aussi aura quelques tracas avec la justice, puisqu'il sera mis en examen dans une sombre histoire de fraude au permis de conduire, des permis de conduire qu'il vendait entre 2000 et 10 000 euros. C'est con, il pouvait pas attendre l'assassin de sa meuf, ça aurait été plus simple, mais étrange. En tout cas, vous serez heureux d'apprendre que cette fois, l'amour fut le plus fort. Patrick et Amel sont toujours ensemble. Le 24 octobre, oui, toujours le point levé, évidemment, le 24 octobre dernier, alors qu'elle avait révélé quelques jours auparavant avoir perdu un enfant en couche, et elle nous annonçait être à nouveau enceinte de son troisième enfant, toutes nos sincères félicitations, d'autant qu'outre un enfant, son nouvel album serait en préparation. Stéphane, faites semblant.
J'ai hâte.
Faites mieux semblant.
J'ai tellement hâte.
Oh, nous aussi. Quant aux mauvaises langues qui disent qu'Amel Bent qui chante Goldman, c'est pas terrible, je rappelle qu'il y a pire, mais alors vraiment bien pire, il y a Berne et Noël qui chante Calogero.
En apesanteur, pourvu que les secondes soient en apesanteur. Ah, pourvu que les secondes soient des heures en apesanteur.
Pas une note dedans, mais pas une, ni dans le rythme, ni dans,
aucune,
ni dans la justesse. C'est le zéro point
clé,
Stéphane.
Oreille, aucune oreille.
Mais pas non plus, alors.
Mais j'aime bien Amel Bent, est une fille adorable.
Ah oui, elle est sympa.
Non, mais vraiment sympathique. Elle est vraiment, vraiment bien. Merci Mathieu, c'était parfait.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de libérer nos personnages du jour. À force d'avoir le poing levé, bah, ils doivent avoir des crampes.
Alors qu'eux sont encore tout frais, l'heure est venue de nous reconnecter avec notre quotidien grâce à Olivier et David, les tic et tac de la vulgarisation historique. Olivier, vous nous proposez un plat aujourd'hui personnellement ne me fait pas envie, mais vous allez peut-être réussir à donner envie.
J'ai pas écouté, je vous ai
céleri remoulade.
Je vous ai convaincu la semaine dernière avec des betteraves, me semble-t-il.
Ah oui, c'est vrai, mais là, il y avait eu dégustation.
Quand je vous expliquerai d'où vient cette sauce et surtout comment je la fais, vous aurez peut-être envie d'aller un peu plus loin.
Ah, et bien pourquoi pas. Mais tout de suite, on retrouve David Castello-Lopez qui nous entraîne aux origines de ce calendrier qui fait la joie des petits et des grands et qu'on va pouvoir ouvrir aujourd'hui, le calendrier de l'Avent.
Quand j'étais enfant, en tout cas, j'aimais tellement le calendrier de l'Avent que je pense que le plaisir a pas totalement disparu aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui encore, j'en achète chaque année et je ressens toujours une petite excitation. Alors, un petit peu moins hystérique que quand j'avais 10 ans, mais quand même. Et en plus, je trouve que c'est hyper élégant comme principe, le calendrier de l'Avent, parce que chaque jour, il y a une petite anticipation à découvrir ce qu'il y a derrière la petite fenêtre en carton. Et cette anticipation, c'est en miniature l'anticipation beaucoup plus grande de la fête de Noël. Elle-même.
C'est bien pensé.
Avec le calendrier de l'Avent, on attend chaque jour un petit Noël miniature et ça nous aide à mieux vivre l'attente du vrai Noël. Mais alors, d'où ils viennent les calendriers de l'Avent ? Bon, déjà, le mot, j'imagine que comme tous les enfants français, vous pensiez que avant, ça s'écrivait A-V-A-N-T oui. Et que ça voulait dire le calendrier d'avant Noël. Ça a l'air incroyablement logique comme ça, mais en fait, non, ça s'écrit bien sûr A-V-E-N-T. Et est-ce que vous savez pourquoi ?
Visiblement, Stéphane sait.
Alors ?
Ça vient du latin.
Oui.
Et c'est advenir. C'est ce qui va venir.
C'est vous êtes assez proche quand même. Ça vient de adventus.
Il est malin quand même. Hein.
Ça vient de adventus en latin qui veut dire l'arrivée.
L'arrivée. Donc on attend
l'arrivée de qui ?
Bah de Jésus.
L'arrivée de Jésus évidemment, qui est né le 25 décembre. Donc l'avant techniquement, c'est l'arrivée de Jésus. L'avènement de Jésus. Mais ça a fini par désigner la période de 4 semaines qui précède cette arrivée de Jésus, d'où le calendrier de l'avant, qui d'ailleurs en anglais se dit Advent Calendar avec un D. Mais alors, qui a eu l'idée de faire de ça un calendrier en forme de boîte à surprise ?
C'est les marchands du temple, à mon avis, ils se sont dit tiens.
Non, c'est un peu plus tard. C'est un petit peu plus tard. Je vous le dis quand même, c'est assez vaporeux. On n'a aucune certitude sur la question. Ça vient probablement d'une tradition allemande du 19e siècle qui consistait à marquer à la craie les jours qui séparaient la toute fin du mois de novembre du jour de Noël et ensuite de les effacer un à un. Tous les jours. En tout cas, celui dont on considère qu'il est le premier à avoir imprimé des calendriers de l'Avent, c'est un monsieur allemand aussi qui s'appelait Gerhard Lang. Et l'histoire qui est la plus souvent racontée, c'est la suivante. Quand il était enfant, dans les années 1880, Gerhard, il a reçu de la part de sa mère, au début du mois de décembre, un couvercle de boîte avec 24 biscuits cousus dessus. Et il avait le droit d'en manger un par jour, jusqu'au jour de Noël. Et devenu adulte, il s'est souvenu de ce moment et il s'est dit « Vas-y, je vais faire imprimer des calendriers un peu sur le même principe ». Et autour de 1905, il a sorti ce qui est, à notre connaissance, le plus ancien calendrier de l'Avent qui ressemble à peu près à ceux qu'on a aujourd'hui. Personnellement, moi je pense que c'est un calendrier de l'Avent qui m'aurait un petit peu déçu parce que quand on ouvrait les petites fenêtres, il y avait quoi derrière ?
Un chocolat ou un bonbon, une
friandise. Non, ça l'aurait pas. Des passages de la Bible.
Non, arrêtez. Okay.
Bon, le calendrier de l'Avent, il a pas eu tant de succès que ça tout de suite. Il en a eu vraiment beaucoup à partir des 30 glorieuses. Et là, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire un produit de masse qu'on voit partout. Mais il y a une mode plus récente du calendrier de l'Avent. Et cette mode, c'est bien sûr l'extension du principe du calendrier de l'Avent aux adultes. Un whisky par jour, une terrine de foie de volaille par jour, un sextoy par jour.
Ça
même
existe.
Quand on pense qu'au départ, c'était grand, des passages de la Bible, de la Bible, c'était quand même surprenant. On a fait du chemin. Et bien sûr, il y a une course à l'échalote de qui fera le calendrier de l'Avent le plus cher. Il y a des calendriers de l'Avent avec
celui
des bijoux.
Celui de Louis Vuitton, vous l'avez vu, là.
Avec Louis Vuitton.
Il est à 400 euros.
Oui, voilà. Alors là, il y en a. Celui qui détient le record, c'est Porsche, qui a fait en 2010 un calendrier de l'Avent à $1 million.
Mais $1 million.
Il faisait la taille d'une armoire. Et dedans, il y avait un bon pour un
bateau de luxe, des lunettes de soleil en or, etc.
Mais c'est celui qu'il vous faut, Mathieu.
Mais oui, c'est celui-là. Oui,
je suis d'ailleurs avec
votre voiture. Voiture.
Je ne te montrerai pas, ça, c'est pas une attaque.
Pour finir, vous savez que je vous aime tous bien.
Ah oui, alors
donc,
le calendrier.
Donc, je vous ai apporté un cadeau à chacun.
Ah non.
À chacun. J'ai essayé de faire quelque chose de personnalisé. Donc tout d'abord, pour Olivier Pouls, j'ai un calendrier de l'Avent. 25 recettes avant Noël. Ah, hein, spécifiquement pour vous.
T'as, j'ai toutes mes chroniques jusqu'à Noël, donc c'est cool. Et, j'ai plus besoin de travailler.
Deuxième, alors pour vous Stéphane, je me suis dit que vous aviez à peu près tout ce qu'il vous fallait dans la vie. Donc j'ai apporté un calendrier de l'Avent, non pas pour vous, mais pour vos chiens. Voilà.
Ah donc non, c'est super, des croquettes derrière chaque.
Exactement. je pense pas qu'il va très bien comprendre de quoi il s'agit.
Non, mais on va les manger avec lui.
Mais oui, exactement. Quant à vous, Mathieu, je soupçonne depuis longtemps que vous êtes la personne autour de cette table qui est la plus fiable d'un point de vue érotique. Donc, je vous ai pris un calendrier au goût exquis.
Oh,
25 jeux coquins romantiques et sexy. Voilà, bon mois de décembre.
C'est magnifique.
À tous.
Merci. Romantique merci, et sexy. Ça
romantique
reste
et sexy. Élégant.
Et la dame, elle est en train de ficeler le monsieur.
Elle le prend par la cravate. Elle le prend par la cravate.
Ah oui.
Ça risque de choquer.
Étrangler.
Vous pouvez bien sûr ouvrir le, parce que ce que Olivier Pouls a fait immédiatement, il a ouvert le numéro 1. C'est quoi la recette?
Écoutez, ma rubrique à venir, donc je change, et donc ça va être le Mojito Virgin Pomme, voilà, qui a l'air délicieux, avec du sucre, des brins de menthe, du jus de citron, du jus de pomme.
Et moi, j'ai ouvert le 2, effectivement, ça va être une soirée qui s'appelle Soirée Rien en dessous, c'est-à-dire Soirée en amoureux, chandelle à la maison, habillé, mais aucun sous-vêtement. Voilà ce qui attend ma femme, je la préviens. Ah bah non, c'est juste pour deux, hein. Vous êtes vraiment un cochon, vous. Ouais. Chacun chez soi.
Et les moutons seront bien gardés. Merci beaucoup, David. Alors, moi, j'ai pas goûté les grandes. Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui pense à vos papilles aussi. Continue avec Olivier Pouls, vous nous racontez l'histoire fascinante du céleri rémoulade.
Bah oui, c'est une délicieuse spécialité aujourd'hui bistrotière, assez facile à réaliser. Je vous donnerai la recette dans un instant. Elle nécessite donc du céleri cru, évidemment, et puis surtout la fameuse sauce rémoulade. Mmh. Alors là, il y a toujours une complication, parce qu'on confond rémoulade, mayonnaise, et il faut dire que tout ça s'entremêle un peu. Et après de longues recherches, j'ai enfin réussi à démêler à peu près les histoires croisées de ces deux sauces. Alors, elle remonte en tout cas au XVIIe siècle. Elle n'était pas du tout préparée comme aujourd'hui, en fait, la rémoulade. Au départ, il s'agit en fait d'une vinaigrette qui contenait des anchois, des capres, des herbes et parfois un peu de citron. Mais on n'avait pas encore trouvé l'idée de stabiliser cette émulsion. Donc, c'est une sauce qui était assez instable. Sa texture, vous l'imaginez, était fluide. Et il faut attendre 1735 pour avoir une nouvelle version qu'on doit à un cuisinier qui s'appelle Vincent de la Chapelle et qui, pour la première fois, arrive à lier cette sauce, à lui donner cette texture si particulière. Mais c'est une liaison qui se fait à base de velouté, alors velouté de viande, de légumes froids qui est incorporé. On y ajoute également de la moutarde. Et là, on a, pour la première fois, une sauce qui a une structure qui ressemble à la rémoulade actuelle, mais toujours pas la fameuse émulsion qui, aujourd'hui, fait la rémoulade classique. Et alors, celle-là, elle arrive en 1806 avec un cuisinier dont on a un peu perdu la trace, mais qui est pourtant un génie, qui s'appelle André Viard, qui écrit un manuel absolument indispensable, qui s'appelle Le cuisinier impérial. Alors, au début, c'était le cuisinier royal, c'est devenu le cuisinier impérial.
Il a changé de régime.
Il a changé de régime, exactement. Mais là-dedans, pour la première fois, on a la liaison avec un jaune d'œuf. Et on sait très bien que c'est le jaune d'œuf qui permet en fait d'émulsionner, donc de lier ensemble les molécules d'eau et les molécules d'huile qui normalement évidemment ne s'assemblent pas. C'est grâce au jaune d'œuf. Et lui, il permet également de gagner beaucoup de temps. Alors il enlève les anchois et les capres et là on a probablement ce qui est l'origine de la vraie rémoulade telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et selon Pierre Leclerc, qui est un remarquable universitaire et historien belge de la gastronomie, je précise, mais gastronomie au sens très large du terme, c'est la rémoulade qui aurait ensuite engendré la mayonnaise et non pas l'inverse, non, comme on l'a longtemps pensé. En fait, la mayonnaise, c'est une rémoulade qui ne contient pas de moutarde. Et les premières recettes de mayonnaise sont réalisées, elles aussi, à base de velouté et de gelée, hein, qui servent à lier, puis de jaune d'œuf. Et Antonin Carême, qui en donne la recette en 1815, s'inspire donc, il le dit, des rémoulades de Viard. Quand elle est codifiée par Escoffier, il n'y a pas de moutarde dans la mayonnaise, il y en a dans la rémoulade.
Et donc la rémoulade aujourd'hui, c'est donc un œuf, un jaune d'œuf,
alors,
de la moutarde.
Exactement, un jaune d'œuf, de la moutarde, des câpres, des cornichons coupés en petits morceaux, un petit peu de ciboulette, un petit peu de vinaigre de Jerez. On peut y rajouter des échalotes émincées. Et ça, c'est vraiment la sauce rémoulade telle qu'on doit la pratiquer aujourd'hui.
Et la rémoulade ne s'utilise qu'avec le...
Non, céréales. Alors pas du tout. Non. Vous pouvez par exemple faire plein d'autres préparations. Je pense, vous prenez un beau chou-fleur que vous allez là aussi émincer assez finement. Vous mettez cette sauce rémoulade et ça fait un chou-fleur rémoulade. C'est délicieux aussi.
Merci beaucoup.
Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, maintenant que vous connaissez la recette, reste à savoir si vous avez les bons ingrédients. Oui, on va jouer avec l'histoire, vous êtes prêts à vous affronter?
Ah oui. Toujours.
C'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Bon, vous connaissez le principe, hein, une question pour chacun, en cas d'égalité, une question pour vous départager avec un chiffre à me donner, et c'est celui qui s'en approche le plus qui gagne. Olivier, le 14 juin 1940... un cheval de course alezan. Vous savez, alezan, c'est la robe est entre le roux et le brun. Ce cheval de course a été fusillé par les Allemands pour acte de résistance. Vrai ou faux ?
Dire qu'à l'époque, ils étaient tellement tarés que ça m'étonnerait pas qu'ils aient fusillé un cheval de course. Il n'en était malheureusement pas là. Alors je vais dire oui.
Bonne réponse. Et Iris XVI, il était réputé. Il avait été monté par le maréchal Leclerc. Les Allemands occupant l'école de Saint-Cyr voulaient absolument voir le cheval. Vif, pour ne pas dire incontrôlable, eh bien une ruade a tué sur le coup le soldat allemand qui était parti le rechercher. Sans aucune forme de procès, le cheval a été fusillé. C'est à lui que nous dédions cette lutte finale.
Oh, c'est beau.
David, vous savez qui est Baudérec? Baudérec est une actrice américaine, un sexe symbole pour nous des années 80. Elle joue notamment Jane dans Tarzan l'homme singe, un film réalisé par son mari, John Derek, de 30 ans son aîné. On peut dire qu'elle porte chance car elle a soutenu les 5 derniers présidents américains quand ils ont fait campagne. Vrai ou faux?
C'est compliqué comme question.
C'est compliqué, les 5, non, ça doit être les 4.
Ça voudrait dire qu'elle retourne quand même à chaque fois sa veste, en gros.
C'est ça qui est bizarre.
Hein. Quand elle en a une. Enfin bon, n'est pas la question.
Allez, je veux dire que c'est un fun fact, et puis c'est plus drôle si c'est vrai, donc disons que c'est vrai.
Non, c'est faux en fait. Sa question n'avait qu'un seul intérêt, celui de vous donner cette citation de John Rivers au sujet de Baudérec. Baudérec ne sait pas ce que sont les chiffres romains. Elle croyait qu'elle tournait un film sur la 11e guerre mondiale. Elle était juste belle.
Ah oui, je peux vous dire que aller voir des photos de Baudérec, oui, c'était quelque chose à l'époque. Je peux dire, vous pouvez ressortir votre microscope.
Elle était un sexe symbole international. Bon, Mathieu, Philippe Grenier est né à Pontarlier dans le Doubs.
Oui.
Député, le 20 décembre 1896, il est à l'origine d'une loi d'une importance extrême. Elle donne naissance à la buvette de l'Assemblée nationale. Grâce à lui, eh bien, on y sert de l'alcool. C'est vrai ou c'est faux?
Quel pourrait être le piège là-dedans? Ça n'a vraiment aucun sens.
Peut-être que c'est pas du tout ce qu'il a fait.
La buvette, c'était la buvette du Sénat, voilà, tout simplement. Ou c'est peut-être pas du tout ce qu'il a fait.
C'est pas du tout ce qu'il a fait, oui. Il est peut-être connu pour autre chose.
Oui, mais moi je pense pas. Je pense qu'il est connu pour cette buvette.
Vous dites que c'est vrai?
Je dis que c'est vrai. Pourtant, non, vous avez essayé de m'aider.
Ouais, ouais. Et pourtant, il est le premier député musulman en France.
Ah,
en 1896. Ah bon, il s'est converti à l'islam en tombant amoureux de la culture musulmane lorsqu'il a rendu visite à son frère en Algérie.
Ah oui, donc,
médecin, conseiller municipal, il se présente à une partielle qu'il remporte. La presse se tourne en dérision en le représentant dans un harem et en le soupçonnant de baiser le tapis de l'entrée de la Chambre des députés.
avant d'y entrer. C'est vous dire qu'on avait quand même quelques clichés
en tête à l'époque.
En 1896. Donc c'est une victoire
sèche,
propre, éclatante, magnifique, du monsieur du Céleri Rémoulade, Olivier Pouls. Bravo Olivier.
Bravo Olivier Pouls. Historiquement vôtre, c'est fini. Une très belle émission consacrée à ces personnages de l'histoire qui ont vécu le point levé. Vous-même, Stéphane, plus jeune, est-ce que vous avez milité? Et si oui, pour quelle cause?
Moi, j'ai milité pour la cause animale. Enfin, de là, lever le point.
Oui, non, c'est quand même très fatigant de lever le
point. Non, mais c'est pas ça, mais vous voyez, qui sommes-nous par rapport à Nelson Mandela ou à la cause des droits civiques des Noirs américains?
Oui. C'est vrai, Stéphane, vous avez raison de mettre les choses en perspective comme ça. Demain, à quoi peut-on s'attendre?
Demain, c'est Sir, No Sir.
Alors bon, qu'est-ce qui se passe? On se rebelle?
Oui, mais surtout, on réunit trois personnages qui ont refusé de faire leur service militaire. Le peintre de génie Pablo Picasso qui a choisi l'art comme seule arme. Le dramaturge anglais Harold Pinter qui s'est engagé, mais dans ses textes uniquement.
Et Jang Yoon-so, un footballeur sud-coréen qui a cru bon de décliner l'obligation de faire son service militaire. Comme dirait Aurel San.
Mauvaise idée.
Très mauvaise idée. Bref, colonel Bern, puisque je rappelle que vous êtes désormais colonel de l'armée grecque. Je vous raconte tout ça demain. À demain.
À demain Mathieu, à demain les amis, à demain chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.